Matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre à 8h41 sur Radio Classique avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz.
Bonjour David.
Est-ce que vous allez bien?
Ouais.
Alors on va commencer par une cure de rigueur, puisque pour vous le fait économique de la semaine, sans doute celui qui va concerner le plus les Français, c'est ce tournant de la rigueur. Les autorités économiques, à commencer par Bruno Le Maire, ne l'appellent pas comme ça, mais en tout cas, nous avons des révisions des prévisions de croissance, et puis la recherche de 10 milliards d'économies annoncée dimanche soir. On s'y attendait un peu, c'est une correction pour vous, c'est un tournant?
C'est le début d'un tournant, parce que ce tournant, de toute façon, est obligatoire. 1 plus 1 égale 2, on apprend ça dès la maternelle, mais une partie non négligeable de la classe politique ne le sait pas, apparemment. Hein, la gauche pure sucre, par exemple, les macronistes, la droite anti-européenne, et puis bien sûr, l'extrême droite. Tous ces braves gens croient bien faire les godichons, c'est-à-dire ils sont convaincus, alors que l'expérience prouve le contraire, qu'il suffit pour avoir de la croissance de dépenser plus qu'on produit, c'est-à-dire de vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire 1 plus 1 ça fait 5 dans les bons cas, parce que parfois ça peut faire 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est simple. Mitterrand a fait cette opération en 1981, il a augmenté sensiblement les dépenses publiques pour relancer l'économie, ça n'a pas du tout marché. Ça a même été un énorme flop. Raison de plus pour recommencer. Macron, toute révérence gardée, c'est un peu le Mitterrand du monde d'après. C'est-à-dire, il est censé faire des miracles. Et d'ailleurs, il pense apparemment qu'il suffit de s'endetter auprès du Qatar et de la Chine. Et puis, hop, tout ça. Enfin, c'est extraordinaire parce que vous regardez bien l'endettement. Hein, il a été multiplié par 3. On est passé de 1000 à 3000 milliards, mais cette dette n'a pas créé de croissance.
Mais vous savez, il y a une croyance, notamment à gauche, mais parfois les milieux de droite,
aussi,
y croient aussi. C'est cette croyance selon laquelle, quand on fait de la dépense publique, il y a un effet multiplicateur et puis ça entraîne de la croissance, parce qu'on se réfère évidemment aux politiques keynésiennes années 30 et au président Roosevelt.
On a mal lu le pauvre Keynes, et puis de toute façon, c'est évident que c'est une bonne politique en cas de crise. Moi, je conteste pas du tout le quoi qu'il en coûte. Simplement, quand on fait du quoi qu'il en coûte, comme l'a fait Macron et ses équipes, comme ils l'ont fait, il faut expliquer aux Français. Il faut faire de la pédagogie. Il faut dire, voilà, là, bon, l'argent magique, ça n'existe pas. Hein. On a imprimé des billets, il y aura l'inflation après. Voilà, tout ça, il fallait faire ce travail de pédagogie.
Non, les Français croient
qu'il y a toujours un trésor caché.
Franz, je pense qu'il l'explique aux Français, mais comme... Je termine. Ce qui est assez curieux, et je voudrais vous questionner là-dessus, mais en termes de communication budgétaire et financière, ils sont un peu schizophrènes, puisque le dimanche, ils expliquent aux Français qu'il va falloir faire des milliards d'économies, puis le lendemain, ils lâchent à des corporations ou sur des politiques sectorielles où on leur demande de l'argent. Donc en termes de pédagogie, c'est pas simple d'expliquer noir un jour et blanc le lendemain.
Oui, c'est simple si on engage un vrai travail sur les dépenses publiques. On a les dépenses publiques par rapport à la richesse nationale les plus élevées au monde. Alors, il y a quelques abrutis qui vous expliquent qu'on est en train de mourir sous le poids du libéralisme. Mais non, au contraire. C'est une sorte de soviétisation de l'économie qui ne cesse de monter. Si on est à plus de 55% de dépenses publiques par rapport au PIB, vous voyez ce que ça veut dire. On a 10 points de plus que l'Allemagne. Et puis on ne s'est pas réduit. C'est-à-dire le Danemark avait plus de dépenses publiques par rapport au PIB que nous il y a encore quelques années, il est descendu. Il est descendu à 50%.
J'ai beaucoup d'affection pour vous parce que vous faites des transitions sans que j'aie à le faire. Vous parlez de soviétisation de l'économie et on va évoquer le dossier de la semaine qui est peut-être le livre du mois. C'est le dossier de la semaine du Point et le livre du mois inspiré du livre du mois qui porte sur l'espionnite aiguë qui pourrait frapper un certain nombre de Français à la solde de Moscou.
Ouais, le livre donc il s'appelle « À la solde de Moscou » par Vincent Jauvert. C'est passionnant et on voit la puissance de l'espionnage russe au siècle dernier. Franchement, ils étaient partout quand même. Quand on pense que Philippe Grimbach, un grand patron de presse, hein, le big chef de l'Express, copain de Giscard, a tué à toi avec le tout Paris, quand on pense que c'était un agent russe. Tous les exemples que donne Vincent Jauvert sont étayés et convaincants, sauf celui, à mon avis, de Gérard Carrérou, dont Hervé Gattegno parlait tout à l'heure, l'ancien patron de l'info d'Europe 1 et TF1. Bon, il n'a pas grand-chose à voir sur la liste.
Gérard Carrérou, John Le Carré, c'est ça.
Oui, c'est ça, voilà. C'est très bon, mais quand on lit le livre, franchement, c'est pas très convaincant. c'est pas très convaincant. Oui, il déjeunait avec un espion russe. Oui, et alors? Mais disons que c'est l'exception qui confirme la règle. Et ce qui est fascinant, c'est que la Russie d'aujourd'hui, ça en dit beaucoup sur la Russie d'aujourd'hui, qui est dirigée, il faut jamais l'oublier, par un ancien haut cadre du renseignement russe.
Et qui croit
un
beaucoup.
Un KGBiste.
C'est quelqu'un qui croit aux vertus de l'espionnage.
Bah, la preuve, il tue à tir larigot. Il tue ses opposants, il tue tout le monde. Il tue les oligarques, les kleptocrates avec lesquels il gouverne ce pays, qui volent comme c'est pas permis.
Mais juste,
il les flingue, il tombe des fenêtres, il tombe dans les escaliers. Vous avez vu l'épidémie de mort.
Mais bien sûr,
ces derniers mois.
C'est pas ça le contraire de l'espionnage, quand on se met à tuer et à faire la guerre, alors que l'espionnage, c'est finalement une façon de faire la guerre avec une certaine douceur, même si c'est avec sournoiserie.
Ce sont les deux, bien sûr, l'espionnage. On voit, enfin, vous avez vu comme moi des livres d'espionnage, il y a des morts.
Il y a des morts, mais il faut tuer.
Non, mais on tue, et puis en même temps, vous avez raison, on s'enseigne. Et ça, c'est le problème qui se pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, franchement, quand on entend la petite musique de certains collègues, hein, ou de politicards, sur la mort de Navalny, c'est étrange. Hein, c'est étrange.
Qu'est-ce qu'il dit?
Que c'est un horrible personnage, que c'est un nationaliste antisémite, ce qu'il a été dans le passé, effectivement. Il a changé, visiblement. Il a changé complètement de braguet. C'était plus le même homme qui est mort.
On va parler de Navalny, mais je voudrais m'attarder quand même sur ces Français qui espionnent au service de Moscou. Qu'est-ce qui fait que, quand on est Français, on se met à transmettre des renseignements à la Russie?
Il y a plusieurs motivations. Il y a la vanité, il y a l'argent aussi, et puis il y a, dans certains cas, on le voit dans plusieurs exemples qui sont dans la presse de ce matin, notamment dans Le Point, c'est les convictions politiques, bien sûr. Bien sûr.
C'est vrai qu'on avait beaucoup de communistes chez nous.
Il y en a toujours eu, et il y en a toujours un peu. Aujourd'hui, évidemment, ils ne trahissent plus pour le communisme, parce qu'on peut pas dire que Poutine soit un communiste, c'est juste un grand mafieux international. Mais il y a la fascination du mal, il y a la fascination de la puissance. Enfin, franchement, quand on voit ce qu'on lit, quand on voit les résultats économiques de la Russie, qui est un pays magnifique, avec un peuple sublime, enfin, tous ceux qui sont allés en Russie le savent, avec des richesses naturel, en veux-tu, en voilà. Quand on voit que c'est un PIB, et puis il y a une population énorme, et quand on voit que c'est un PIB qui est à peine celui de l'Italie, on a compris. On voit l'argent.
Franz, est-ce qu'on a tenté de vous retourner, vous? Est-ce que vous avez été approché? Parce que vous connaissez plein de choses, vous connaissez plein de chefs d'État et de ministres et d'anciens chefs de gouvernement. Est-ce que vous avez eu le sentiment à certains moments de vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là?
Oui, c'est vrai. Ça arrive. C'est pour ça, d'ailleurs, en lisant
ça vous est arrivé.
En lisant la partie du livre qui concerne Carrero, je me disais, mais ça aussi, j'ai dû avoir ça, moi. Des espions qui font des notes après, qui essayent de. Et puis je veux dire.
On vous a pas envoyé une belle babouchka, par exemple?
Non, on m'a jamais fait de cadeau. D'ailleurs, j'accepte pas les cadeaux. Il faut se méfier toujours des cadeaux. Hein. Je prends pas d'argent des collectivités territoriales non plus, contrairement à beaucoup de mes confrères. Jamais. C'est un principe comme ça. On peut dire du bien des gens.
Alors justement, vous voulez dire du bien de Navalny.
Du mal aussi. Navalny, écoutez, moi, j'avais un a priori favorable. J'avais lu beaucoup de choses sur lui, mais j'avais pas vu des images. Il y a un film absolument génial, le documentaire de Daniel Roer, qui a été d'ailleurs l'Oscar du meilleur documentaire. Hein, il était oscarisé.
Diffusé
en 2023
sur Paris Première, c'est ça?
Oui, sur Paris Première, et vous pouvez toujours le retrouver. Je sais pas si on dit en VOD, en streaming, j'aime pas ces mots franglais, ou en replay, mais enfin, vous pouvez toujours le voir sur Paris Première. C'est génial. C'est sans complaisance, hein, parce que Navalny est interrogé sur ses accointances passées avec les ultranationalistes, mais il apparaît dans sa vérité, vif, drôle, courageux, charismatique, un héros avec des yeux très clairs. Et franchement, quand on voit le film, on comprend que Poutine l'ait fait tuer. C'était un danger public, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait une grande force par rapport à tous ses opposants. C'était un humour absolument dévastateur.
Il est plus dangereux mort ou vivant?
Bah, il est t'es plus dangereux vivant, évidemment. C'est pour ça.
Vous croyez pas qu'il va faire l'objet d'un culte et que c'est pour ça
je
que
je pense qu'il va faire l'objet
c'est
d'un culte.
C'est pour ça que ouais. Poutine tarde à rendre le corps à la famille.
Je pense qu'il a... ah bah de toute façon personne n'est dupe. Je sais pas dans quel état sera rendu le corps. Enfin ça, de toute façon, tout ça montre l'abjection totale de Poutine et je dirais plus l'abjection totale de ceux qui le soutiennent en France aujourd'hui parce que encore on l'a vu. Je veux dire à l'occasion de la mort de Navalny, tous les putinolâtres qui expliquaient. Bon, on va toujours, c'est toujours un peu la même histoire. Vous savez, c'est ce qu'on avait fait pour le dernier opposant que Poutine a fait tuer tout près du Kremlin, vous vous souvenez? Par une escouade, hein. On expliquait, mais non, c'est pas Poutine, c'est son opposant à Poutine, des opposants à Poutine.
Non, le grand argument, c'est il faut pas, il fallait pas humilier la Russie.
Oui,
c'est le
voilà,
grand
voilà,
argument.
Voilà. Bah,
fallait pas humilier la Russie.
Quel est le rapport avec Navalny? Quel est le rapport avec Navalny? Qui est solaire, qui est, comment dire, qui a une forme de beauté, de force, de puissance, hein. C'est ça qui est, non, le, faut regarder ce film, Navalny, hein. Vous le trouverez facilement sur Paris Première et vous comprendrez beaucoup de choses.
Très vite, il nous reste peu de temps.
Ouais, bon, on va aller vite. C'est toujours un peu pareil parce qu'on arrive sur l'Arménie.
Je voudrais qu'on parle de l'Arménie. Je sais que c'est un de vos sujets.
Il reste peu de temps.
C'est un sujet de cœur. Non, mais vous en avez parlé beaucoup. Est-ce que Macron a bien parlé selon vous qui êtes arménien de cœur?
Oui, bien sûr, il parle très bien. Non, franchement, là, c'était une belle cérémonie, c'était émouvant. Et c'est une belle histoire, Manouchian, c'est merveilleux. Et le mot français de préférence c'est une très belle expression. Je crois que c'est une trouvaille de Macron. Et bon, poète, communiste internationaliste, rescapé du génocide arménien de 1915, c'est le premier étranger à entrer au Panthéon. Et je pense que c'est l'occasion de parler de l'Arménie parce qu'effectivement, Nicole Pachinian, son premier ministre était au Panthéon hier, et il est reparti ce matin à Erevan en Arménie, où il sera rejoint fin de semaine par Sébastien Lecornu, notre ministre des Affaires étrangères, avec toute une délégation.
Non, de la Défense.
Vous avez raison.
C'est Journé ou Lecornu? Oui.
Non.
C'est Journé ou Lecornu?
Sébastien Lecornu, notre ministre de la Défense. Vous avez bien fait de me reprendre. C'est une visite importante dans le cadre de la coopération militaire entre la France et l'Arménie, puisque nous vendons maintenant des équipements de défense sol-air. Et les Arméniens en auront bien besoin. Je pense qu'on n'a pas le droit de laisser tomber les Arméniens. Hein ? Le satrape véreux islamiste Ilham Aliyev, qui est à la tête de l'Azerbaïdjan voisin, a décidé de l'envahir après avoir chassé, on le répétera jamais assez, les 120 000 Arméniens qui étaient sur les terres azéries du Haut-Karabakh depuis des siècles. Hein, c'est là qu'ils vivaient et ils ont été chassés. Ça s'appelle de la purification ethnique. Et on n'a pas le droit de l'encourager.
Bon, c'est dit, France.
Oui, mais attendez. Aujourd'hui, ils bombardent des positions arméniennes.
Hein. Mais vous en parlerez la semaine prochaine.
Il y a eu 4 mois encore récemment. On en reparlera.
Et vous ferez le bilan de la visite de Lecornu.
Personne ne moufte. Et là, c'est intéressant parce qu'on parlait de la corruption. On parlait de l'espionnage russe. Je vais vous dire, l'Azerbaïdjan, qui a beaucoup d'argent avec le pétrole, avec le gaz qu'on achète. D'ailleurs, c'est souvent du gaz russe.
Vous pensez qu'ils arrosent.
Ils arrosent évidemment des médias, des politiques. J'attends avec impatience la liste de la corruption de l'Azerbaïdjan.
Vos fiches, c'est fini, je vous supprime vos fiches. Je voudrais qu'on garde une minute pour passer à toute autre chose. Micheline Prel, qui a chanté.
Ah oui.
Elle a chanté, en plus d'être une de nos grandes actrices de cinéma et de théâtre, elle a chanté, alors elle a chanté en anglais, puis elle a chanté en français.
Toujours de bonne humeur.
Et notamment une chanson extraordinaire de Mireille, qui est Le Petit Chemin, qui sent la noisette. On l'écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.
Pour aller à la préfecture, prends la route numéro 3. Tu suis la file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans les bois, puis il part au hasard en planant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous qui donnent leur fête. Les lapins nous invitent.
souris-moi, courons vite. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin.